Dans le cadre des élections régionales, je vous rappelle que quand on parle de la région, on parle de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour ces élections régionales, nous recevons aujourd'hui à Radio Val-d'Or par téléphone une candidate tête de liste pour la liste du département des Deux-Sèvres, puisque les listes sont présentées par département pour cette élection régionale. Je reçois donc une candidate. Il s'agit de Daniel Cassette, qui représente Lutte Ouvrière. Déjà, je vais saluer notre invité. Daniel Cassette, bonjour et bienvenue. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, oui, je vous en prie.
Oui, je vous en prie, allez-y.
Donc, ma première question, ce sera de vous présenter, si c'est possible, Daniel Cassette. Je vais faire appel à la mémoire des auditeurs et auditrices pour dire qu'on s'était déjà rencontrés dans le cadre d'élections il y a quelques années en arrière, mais bon, ça c'est le passé, ce qui nous intéresse c'est le présent et l'avenir. En tout cas, est-ce qu'on peut vous faire un peu votre connaissance, vous présenter et présenter votre liste, en tout cas la liste dans les Deux-Sèvres, pour les Deux-Sèvres, et aussi peut-être le tête de liste qui emmène toutes ces listes pour l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous écoute, nous vous écoutons.
Oui. Voilà, donc je m'appelle Daniel Cassette, je suis retraitée de La Poste, j'ai travaillé 20 ans à La Poste, auparavant dans le privé. Voilà, donc notre liste, faire entendre le camp des travailleurs, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on attribue, disons que notre liste porte ce nom, parce que pour nous c'est essentiel ça, hein, de représenter les travailleurs, les petites gens, tous ceux qui ont particulièrement souffert d'ailleurs dans cette pandémie qui n'est pas terminée. Alors donc, notre tête de liste surtout, je vais surtout parler de Guillaume parce que c'est lui qu'on entend le plus dans les médias, bon, enfin, le peu de médias qui veulent bien nous interviewer, hein, merci à Radio Val-d'Or. Donc Guillaume Perchet, il va nous représenter à l'échelle donc de la Nouvelle-Aquitaine, il est travailleur dans l'aéronautique. Voilà, nous nous présentons dans toutes les régions, hein, toutes les régions françaises et également en Martinique et en Guadeloupe, car nous pensons que c'est important ce moment, non pas tant à cause de l'importance des régionales, hein, et départementales, je crois que tous les sondages disent la même chose, c'est pas une élection qui préoccupe particulièrement la population, mais c'est un moyen pour présenter ce qui nous semble essentiel dans la période actuelle. Surtout dans cette période, enfin, qui est toujours extrêmement difficile pour une grande partie de la population. Hein, cette pandémie, qui a fait plus de 100 000 morts, qui a provoqué des dizaines de milliers de licenciements, des situations souvent catastrophiques sur le plan économique pour un tas de gens, pour tous les gens qui sont, aux manettes, hein, ceux qui font tourner toute la société. Et nous, une des raisons pour lesquelles on se présente, c'est pour dire que ces gens qui font tourner toute la société, eh ben, ils doivent la diriger. Hein, c'est vraiment une mise clairement contre les capitalistes, le grand capital et ce gouvernement qui défend cette classe d'exploiteurs. Voilà.
Alors vous êtes tête de liste, Daniel Cassette, pour la liste départementale du département des Deux-Sèvres, c'est bien ça?
Pour les régionales.
Oui, Mais, mais vous présentez une liste, on va dire, deux-sèvrienne, si on peut dire entre guillemets, dans cette élection régionale. Il y a 14, je crois que c'est ça, il y a 14 candidatures pour le département des Deux-Sèvres, 14 candidates ou candidats. Est-ce que vous voulez en préciser un peu plus pour les autres candidats ou alors c'est peut-être pas utile, vous dites, c'est comme vous voulez.
Oui, non, je peux vous dire simplement que le seconde liste, a travaillé comme professeur dans une école justement à Niort jusqu'à l'an dernier. Vous savez, on n'est pas, comment dire, on pense pas que les régions, ça soit vraiment les centres de décision à l'heure actuelle, vous voyez.
Oui.
C'est parti de la Nouvelle-Aquitaine là, la dernière fois d'ailleurs, on n'était pas rattaché à la Nouvelle-Aquitaine, hein, c'était Poitou-Charentes. Bon, donc vous voyez tout ça, ils manipulent un peu en fonction d'intérêts qui sont loin de représenter la population. On pense qu'il n'y a pas particulièrement, de particularisme sur les problèmes que rencontre la population laborieuse à l'heure actuelle. Hein, les gros problèmes, c'est la santé, hein, le chômage, comment boucler les fins de mois. Et ça, vous savez, qu'on soit dans les Ardennes, à Niort ou à Marseille, les problèmes sont les mêmes pour la population laborieuse.
D'accord.
Voilà. Donc c'est pour ça que moi je voudrais donner une vision un peu plus globale,
d'accord,
hein, de la situation.
Alors
pas qu'on puisse régler.
pourquoi lutte ouvrière? Parce que là, vous avez répondu, le camp des travailleurs, les masses laborieuses, si on peut dire, les salariés, les petites gens. Mais pourquoi lutte ouvrière? Pourquoi cet engagement? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce que ça signifie politiquement, lutte ouvrière aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Bah, écoutez, moi, ce qui a été marquant pour mon engagement politique, en fait, c'est Arlette Laguiller. Hein, je crois qu'elle a touché pas mal de gens à l'époque. Et de voir cette femme qui s'est engagée en politique à l'âge de 16 ans, hein, en pleine guerre d'Algérie, et qui ensuite a continué et continue son combat encore à l'heure actuelle, à plus de 80 ans, pour moi, c'est un modèle. Vous voyez, un modèle d'engagement, justement, sur des valeurs, hein, des valeurs de. Voilà, d'abord de condamnation de cette société. Hein, je crois que la pandémie nous montre à quel point cette société est vraiment au bout du rouleau. On n'a même pas été capable, dans un pays riche comme la France, on n'a même pas été capable d'avoir suffisamment de place dans les hôpitaux pour pouvoir soigner les gens correctement. Hein, le vaccin, il a fallu attendre des mois, parce que ici, même une entreprise comme Sanofi, qui est quand même un trust important, n'a même pas été foutue de faire son propre vaccin. Bon, c'est quand même, ça condamne, je crois, toute cette société. Ou pendant ce temps-là, eux, les milliardaires, ils ont continué à prospérer, mais joyeusement. Il n'y a pas de problème, hein.
Vous pensez qu'il faut introduire un rapport de force toujours? C'est l'idée de lutte, de combat pour justement défendre les intérêts des travailleurs.
Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là, effectivement. Hein, tout ce qui a pu être essayé pour essayer de réformer le système, pour le rendre plus propre, plus humain, etc. Vous avez vu ce que ça a donné. Et tous ces présidents et ministres de gauche qui sont passés avec des programmes de changer la vie, d'améliorer la vie des travailleurs, etc. On a vu ce que ça a donné. Ça n'a été qu'empiré, hein. Empiré parce que ceux qui dirigent la société, vous savez, on vote pas pour eux. Bernard Arnault, là, qui s'est encore engraissé, mais d'une manière scandaleuse pendant cette pandémie, celui-là, il se présente jamais à nos votes. Hein, et sans parler, bien sûr, des Jeff Bezos et tout ça, qui sont à l'échelle internationale de véritables. Oui, vous savez, on a fêté les errements de Napoléon récemment, mais à côté de Jeff Bezos, c'est pas grand-chose, Napoléon, hein, je crois.
Donc vous voulez
Refaire
dire,
une révolution, bien sûr, il
ouais,
faudrait refaire une révolution.
c'est ça. Vous employez le terme carrément, c'est la révolution. C'est-à-dire,
Absolument.
il faut pas arrêter de parler de réforme ou d'ajustement
Non.
ou de petits pas. Il faut carrément une révolution globale, quoi.
Absolument, absolument. Il faut renverser cette société. Il faut repartir sur des bases où ceux qui travaillent, effectivement, dirigent, choisissent. Hein. Il faut que les richesses de la société profitent en priorité, justement, à ceux qui les créent, ces richesses. Hein. Il faut arrêter avec cette dictature de la bourgeoisie à l'échelle mondiale. Hein. Et puis, sans compter tous les risques, enfin divers et variés. Alors on parle beaucoup des risques écologiques qui sont effectivement terrifiants. Vous avez vu encore cette histoire du porte-conteneur là qui est dans l'océan Indien, qui va sans doute se casser dans les jours qui viennent là, en répandant encore une marée noire, encore tout un tas de plastique, de produits nocifs, etc. Mais des risques de guerre tout court. Hein, parce que la compétitivité qui existe entre les différentes bourgeoisies à l'échelle mondiale, hein, c'est un risque qui plane sur l'ensemble de la société. Entre les États-Unis et la Chine notamment, vous savez, un risque qui plane sur toutes nos têtes.
Et vous
Vous avez
êtes,
déjà vu?
excusez-moi Daniel Cassette, vous pensez qu'actuellement le régime politique français, le gouvernement français, c'est une dictature, une véritable dictature de la bourgeoisie, une dictature, on n'est pas dans un régime finalement, on pourrait dire démocratique.
Je parle de dictature économique
Dictature économique, d'accord, oui.
qui se cache derrière une prétendue démocratie politique. Mais en fait, cette démocratie, vous savez, regardez, le mouvement des Gilets jaunes a montré à quel point on a vite fait de se prendre des coups sur la figure quand on n'est pas d'accord avec le régime. Hein? Quand vous voyez le nombre de gens qui ont été esquintés, blessés dans ce mouvement, qui était un mouvement de révolte de petites gens, qui était tout à fait justifié. On voit quand même les limites de cette démocratie, vous savez. Et sans compter que ça peut aller bien plus loin, hein, quand on entend Marine Le Pen et tous ceux qui reprennent ces arguments, hein, y compris dans le gouvernement actuel, dans la droite et parfois même dans la gauche, hein, il y a quand même certains bien des raisons d'être inquiets sur l'évolution, y compris politique du système.
Est-ce qu'on peut parler, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la région Nouvelle-Aquitaine? Bien sûr, j'ai compris que vous en parliez, parce que pour vous, c'est une lutte globale et je dirais même peut-être certainement internationale, j'ai bien compris. Mais est-ce que vous pourriez parler un petit peu de la région Nouvelle-Aquitaine quand même? Comment vous voyez ces compétences? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'échelle de la région? Est-ce qu'il y a des mesures, des choses plus précises, plus à mettre en avant, des projets à défendre? Je ne sais pas, je vous écoute, Daniel Cassette, si c'est possible.
En tout cas, la région Nouvelle-Aquitaine, comme toutes les autres régions de France, elle pratique la même politique de soutien aux capitalistes. C'est ça sa raison d'être. La région vient d'élaborer son propre projet de plan de relance, là vous avez vu, tout récemment. Donc il y a 2,8 milliards, dont 1,3 qui est déboursé directement par la région, c'est-à-dire vous, moi et... qui va être versé en subvention et en commande pour des grands travaux, mais au profit de qui? En quoi la population est directement concernée par ces grands travaux décidés? Oui, il y aura peut-être quelques lignes de chemin de fer qui devaient être fermées, qui peut-être vont être entretenues. Ça parce que ça les intéresse. Mais à part ça, les subventions, elles vont aller essentiellement aux grandes entreprises, les Stelia, l'aéronautique... tout un tas d'entreprises autour de ça, voire même l'alimentaire, mais pas les petits, on va pas aider les agriculteurs, on va aider les grandes entreprises de l'alimentaire. Vous savez, tout ça, c'est un peu pour nous faire croire qu'il y a des décisions qui sont prises localement. Parce qu'en fait, les vraies décisions, elles sont prises centralement. Et on voit d'ailleurs à quel point les moyens qui sont donnés aux régions, aux départements, aux municipalités, c'est peau de chagrin, ça se réduit de plus en plus. Donc je pense que, vous savez, au niveau de la région, on ne peut pas faire grand-chose. Alors bien sûr, on peut commencer à s'organiser pour se préparer à se défendre contre toutes les mesures qui vont être prises encore. Parce que, vous savez, on n'en est pas sorti de cette crise, loin de là même. Ils vont nous la faire payer. Quoi qu'il en coûte, vous allez voir qui c'est qui va payer.
Et donc,
Bernard Arnault.
Donc la fameuse théorie du ruissellement et que ça profite à tout le monde, finalement tout le monde en profite, y compris les petits gens justement, évidemment ça va de soi, vous n'y croyez pas une seconde, évidemment.
C'est complètement bidon cette histoire, enfin, je crois qu'il n'y a pas grand monde pour être dupe, vous savez quand on discute avec les gens autour de nous, je crois que personne n'y croit à ça, évident.
Et comment on peut organiser politiquement? Là, j'ai compris que le système vous convenait pas, mais qu'est-ce que vous proposez? Comment on pourrait organiser à l'échelle d'une région ou d'un pays différemment les choses?
Alors, à l'heure actuelle, de toute manière, tant que la bourgeoisie possédera tous les moyens de production, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est se préparer justement à les renverser, ces gens-là. Et ça, c'est déjà un sacré boulot, vous savez, au niveau des entreprises, au niveau des quartiers, dans les villes, même dans les campagnes, commencer déjà à discuter entre nous, se regrouper, discuter des problèmes et voir un peu concrètement, justement, même localement, comment on va pouvoir régler les choses. Comment on va pouvoir, par exemple, exproprier tous ces gens qui ont des logements, par exemple, dans lesquels ils sont jamais, alors qu'à côté de ça, vous avez vu, la loi sur l'expropriation vient de repasser, c'est-à-dire qu'on va voir à nouveau des gens, des familles qui vont se retrouver à la rue, en logement, ça on pourrait très bien le faire au niveau local. On pourrait aussi se regrouper pour voir un peu quels sont les besoins au niveau des entreprises, de la production, etc. Mais entre travailleurs, pas avec les patrons, parce que eux, tout à l'heure, ce qui les intéresse, c'est le pognon, c'est ce que ça va leur rapporter. On pourrait très bien commencer à faire des comités justement localement. Nous, d'ailleurs, c'est à ça qu'on travaille, nous, à Lutte Ouvrière. Regrouper les gens localement pour discuter de nos problèmes et voir comment on va pouvoir y faire face quand la colère va exploser. Parce que tant que les travailleurs ne seront pas en colère, révoltés, dans la rue, il ne sera pas possible de faire grand-chose. Mais ça, il faut le préparer.
Est-ce qu'il y a un modèle dans l'histoire, un mouvement politique historique dans l'histoire qui vous inspire, qui sert de modèle, ou alors actuellement un pays, un gouvernement qui a votre faveur, je dirais?
Alors, des modèles dans l'histoire, oui, il y en a un dont on a parlé tout récemment, dont on a fêté les 150 ans, c'est la Commune de Paris.
D'accord, oui.
Alors, ça n'a duré que 3 mois, mais c'est un super exemple, justement, de comment les travailleurs peuvent s'organiser, comment les petites gens peuvent s'organiser, comment les gens ont empêché qu'on vole les canons de manière à pouvoir se défendre, comment ils ont organisé le ravitaillement au niveau des quartiers, comment les femmes ont commencé à prendre un peu le pouvoir et s'intéresser aux affaires de toute la société. Et puis j'ai un deuxième exemple qui, lui, par contre, a duré un peu plus longtemps, même si après ça s'est mal passé, c'est la Révolution russe, hein, un pays immense, une dictature terrible, hein, le tsarisme, c'était terrible. Comment les ouvriers ont renversé ce système. Comme ça, le tsar est tombé, ça a commencé par une manifestation de femmes. Ensuite, les ouvriers des usines sont sortis. Et c'est toute la population qui s'y est mise et qui a renversé le tsar en quelques jours.
Mais...
Et ensuite, bon, ça a été vers la création des soviets. Les soviets, c'est-à-dire la population qui a pris les choses en main, réellement.
Mais est-ce que c'est possible, excusez-moi Daniel Cassette de vous couper la parole, est-ce que c'est possible ce renversement, cette révolution, sans avoir recours justement à la violence ?
Ah ben, la violence, de toute manière, la violence, c'est pas nous qui allons la déclencher, la violence. Hein. À partir du moment où ils vont voir que leurs intérêts, comment dire, prennent des risques, c'est là qu'ils vont l'utiliser. Vous savez, la police et l'armée, hein, c'est pas vrai, elle sert pas à défendre la population, hein. L'armée, la dernière fois qu'elle a défendu le territoire français, c'était en 1940. On a vu ce que ça a donné. Hein, sinon, le reste du temps, elle défend les intérêts comme au Rwanda. On a vu au Rwanda et ça continue à l'heure actuelle en Afrique. La police, on a vu à quoi elle sert. Hein, tabasser les gens qui se défendent, hein, les gilets jaunes, etc. Donc, vous savez, bien sûr qu'ils utiliseront cette violence. Alors, plus on sera nombreux et plus ils auront, enfin, on aura de chance que, y compris le personnel de répression, les policiers et les militaires, se sentent concernés par notre mouvement et le rejoignent. Comme ça, c'est déjà passé dans l'histoire. Vous savez, il y a des moments où les policiers et les militaires sont passés du côté des insurgés, notamment pendant la Commune de Paris.
Et est-ce que le Rassemblement National, je vais faire un peu de provocation, hein, vous m'excuserez, mais le Rassemblement National revendique aussi cet esprit de révolution, contre justement le pouvoir en place, les élites et aussi également, et c'est eux qui malheureusement pour vous certainement sont en bonne position, je dirais, si on peut dire ça, en tout cas d'après les sondages, hein, je dis bien, enfin pas que les sondages, d'ailleurs même dans les résultats, dans les urnes évidemment.
Oui, alors le Rassemblement National n'est pas du tout, ne revendique absolument pas la révolution, bien au contraire. Le Rassemblement National, c'est un parti qui est pour garder le capitalisme, hein, voire même le rendre plus sauvage. Hein, le rendre plus sauvage en virant tous les immigrés, par exemple. Hein, hein. Alors, rien à voir avec le Rassemblement National. Quand ils parlent de révolution nationale, c'est la révolution à la mode de Mussolini ou d'Hitler. Ça n'a rien à voir avec la révolution de type communiste, nous, qu'on voudrait. Alors, je répète, hein, communiste, mais pas à la manière dont ça s'est passé sous Staline. Hein, pas du tout. Communiste à l'origine, si vous voulez.
Donc, il faut...
Quand vous me posez la question de savoir s'il y a un gouvernement dans le monde... qui correspond à ce qu'on voudrait, ben non, hein, parce que cette gestion de la société par la population qui travaille, ça ne pourra se faire justement qu'à l'échelle mondiale. Alors il faudra bien que ça démarre quelque part.
Et il faut être idéaliste, notamment je pense aux jeunes, il faut être idéaliste, il faut avoir un rêve, un grand rêve, il faut être idéaliste, vouloir plus et beaucoup mieux et pas se contenter, justement pas subir et pas se contenter de petits renoncements. Enfin, j'essaie de penser un peu comme vous, si je peux me permettre.
Ouais, mais vous savez, non, enfin, il s'agit pas de se contenter de petites réformes. Il s'agit qu'à l'heure actuelle, la situation, elle se dégrade considérablement. Hein, c'est pas des petites réformes qu'on va avoir là, hein, c'est des grands coups dans la figure, parce que vous allez voir les licenciements, ce que ça va donner, hein, ils vont nous la faire payer cette crise, et forcément, alors en plus avec les risques, comme vous avez dit, que le Rassemblement National passe peut-être au gouvernement l'année prochaine, hein, parce que face à la peur justement de la situation, hein, quand vous savez, la peur, ça suscite tout un tas de choses, et notamment le repli sur soi. Et Marine Le Pen, c'est là-dessus qu'elle joue, sur le repli sur soi.
Hein. Et en fait, la violence, elle existe déjà dans la société. Elle existe déjà dans la société. C'est ce que vous voulez dire, en fait, si j'ai bien compris.
Absolument, absolument. Vous savez, c'est extrêmement violent. Quand on se retrouve licencié avec une famille à nourrir et qu'on n'a rien à donner à manger à ses enfants, c'est pas de la violence, ça. Quand on se retrouve viré de son logement dans la rue, hein, c'est pas de la violence, ça. Et en ce moment, c'est le sort de milliers de familles en France, hein. Vous savez, il y a des gens, il y a deux vieilles personnes, là, il y a quelques jours, qui ont été retrouvées mortes dans leur logement, mortes de faim, dans le Nord. Hein, bon, C'est, oui, la société, c'est une société de violents.
Écoutez, Daniel Cassette, représentante de Lutte Ouvrière pour cette élection régionale, je le rappelle, sur l'antenne de Radio Val-d'Or, il nous reste 30 secondes, un peu plus de 30 secondes pour un mot de conclusion. Nous arrivons au terme de notre enregistrement. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse le mot de la conclusion, si vous voulez bien.
Bah écoutez, moi ce que je propose aux travailleurs qui m'écoutent, hein, c'est d'utiliser le bulletin de vote qui de toute manière ne sert qu'à ça, hein, pour donner un avis, pour dire justement qu'il faut que les travailleurs relèvent la tête et que voilà, il faut imposer des changements fondamentaux et voilà, ça sera un moyen de le dire que de voter pour Lutte Ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.
Merci encore une fois à vous, Daniel Cassette, et quoi qu'il en soit, à très bientôt. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.